Si l'on donne pour finir la parole aux théologiens, c'est pour revenir à la question qui a été choisie pour servir de titre à tout le cycle des conférences 80, ou plutôt pour revenir au texte qui, le premier, pose cette question. En effet, sur les invitations, la chose n'était pas indiquée, mais les mots « qu'est-ce que l'homme ?» sont tirés de la Bible, où ils reviennent à plusieurs reprises. Et je crois que je ferai bien en récapitulant très brièvement ce qu'il en est des usages bibliques de cette question. Nous la trouvons en fait trois fois dans l'Ancien Testament, la partie de la Bible écrite avant la venue de Jésus-Christ, et une fois dans le Nouveau. Elle se trouve dans le psaume 8e. Vous le savez, les psaumes étaient les cantiques d'Israël. Le psaume 8e s'émerveille de la magnificence du nom de Dieu, tel qu'il resplendit dans toutes ses œuvres. Et tout en méditant le sens de la création, selon le texte de la Genèse, l'auteur du psaume perçoit le contraste entre l'insignifiance de l'homme, si l'on considère ce qu'il a en propre, et la place d'honneur que Dieu lui a donnée. Qu'est-ce que l'homme ? Pour que tu prennes soin de lui, pour que tu le considères, le fils de l'homme, pour que tu prennes garde à lui, et pourtant tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu lui as donné comme une place de prince sur toute l'œuvre de tes mains. C'est dans l'esprit de l'action de grâce, de la louange, de la gratitude que cette question est d'abord posée. Puis nous la retrouvons dans un autre psaume, vers la fin du livre des psaumes, au chapitre, le psaume numéro 144, au verset 3. Le contexte est assez différent. Il s'agit là des appels au secours en face d'adversaires pressants et aussi de l'affirmation de la confiance que met l'auteur du psaume en son Dieu, qui est son bouclier, qui est son refuge, qui lui donne la force de tenir le coup. Là, la question a pour but, semble-t-il, de rappeler la faiblesse naturelle de l'homme, le plus démuni de tous les animaux, comme on a pu dire, et de souligner que Dieu lui-même prend soin de lui. La troisième fois qu'on la rencontre dans le texte de l'Ancien Testament, c'est dans le livre de Job, ce grand drame de sagesse, qui est l'un des livres les plus difficiles à interpréter de toute la Bible, mais certainement l'un des plus profonds aussi. Et c'est Job qui, au chapitre 7, pose la question « qu'est-ce que l'homme ?» en vue de la manière dont Dieu le tient responsable de ses actes. Job ne comprend pas que Dieu accorde tant de poids, finalement, à ses actes de l'homme, qu'il le fasse comparaître en jugement, qu'il le tienne pour coupable ou pour innocent, alors que l'homme est si peu de choses devant lui. Malgré cette infimité de l'homme devant Dieu, Dieu fait l'honneur à l'homme de le tenir pour responsable. Ce sont les trois usages dans l'Ancien Testament, vous le voyez, qui indiquent déjà trois directions différentes pour la réflexion. Dans le Nouveau Testament, c'est l'auteur de l'épître dite aux Hébreux, un auteur qui restait anonyme, qui, citant le psaume 8e, répète la question « qu'est-ce que l'homme ?» Et je voudrais lire avec vous maintenant les versets qui entourent cette citation dans l'épître aux Hébreux, au second chapitre. Je crois qu'il s'agit d'un développement très intéressant pour nous, qui concerne d'abord Jésus-Christ, mais aussi toute la doctrine biblique de l'homme. Je lis dans la traduction « Bonnes nouvelles aujourd'hui » au second chapitre et à partir du verset 5e. Dans les versets précédents, l'auteur a montré la supériorité de Jésus-Christ sur tous les anges et a souligné que le salut communiqué par lui est un salut si extraordinaire qu'il serait fou de l'ignorer. Au verset 5, il dit donc « En effet, ce n'est pas aux anges que Dieu a accordé le pouvoir sur le monde à venir dont nous parlons. Au contraire, dans un passage de l'Écriture, quelqu'un déclare « Qu'est-ce que l'homme, ô Dieu, pour que tu penses à lui ? Qu'est-ce qu'un simple homme pour que tu prennes soin de lui ? Tu l'as rendu pour un peu de temps inférieur aux anges, tu lui as donné la gloire et l'honneur comme à un roi, tu lui as accordé le pouvoir sur toute chose. » Quand il est dit que Dieu a accordé à l'homme le pouvoir sur toute chose, cela signifie qu'il lui a tout soumis sans exception. Cependant, nous ne voyons pas que l'homme ait actuellement le pouvoir sur toute chose. Mais nous constatons ceci. Jésus a été rendu pour un peu de temps inférieur aux anges, afin que par la grâce de Dieu, il meure pour tous les hommes. Et nous le voyons maintenant couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. En effet, il convenait que Dieu, qui crée et maintient toutes choses, rende Jésus parfait au travers de la souffrance, afin d'amener beaucoup de fils à participer à sa gloire, car Jésus est celui qui les conduit au salut. Jésus qui purifie les hommes de leurs péchés, et ceux qui sont purifiés ont tous le même Père. C'est pourquoi Jésus n'a pas honte de les appeler ses frères. Il déclare en effet « Ô Dieu, je parlerai de toi à mes frères, je chanterai tes louanges devant toute l'assemblée. » Il dit aussi « Je mettrai ma confiance en Dieu et encore, me voici avec les enfants que Dieu m'a donnés. » Puisque les enfants, comme il les appelle, sont de chair et de sang, Jésus lui-même est devenu comme eux et a participé à leur nature humaine. Il l'a fait afin de détruire par sa mort le diable qui détient la puissance de la mort et de délivrer ainsi ceux qui étaient comme des esclaves durant toute leur vie à cause de leur peur de la mort. Car ce n'est certes pas aux anges qu'il vient en aide, mais comme le déclare l'Écriture, il vient en aide aux descendants d'Abraham. C'est pourquoi il devait devenir en tout semblable à ses frères, afin d'être leur grand prêtre fidèle et plein de bonté dans son service devant Dieu, pour que les péchés du peuple soient pardonnés. Et maintenant, il peut venir en aide à ceux qui sont tentés, parce qu'il a été tenté lui-même et qu'il a souffert. Je dois résister à deux tentations dans l'exposé de mon sujet. La première tentation, qui est assez vive, serait celle de trop pascaliser, de constamment me référer aux pensées de Pascal. Le chrétien français découvre en Pascal un frère si proche et si profond, s'émerveille tellement des formules que le grand penseur a forgées pour mieux persuader ceux qui dédaignaient le christianisme de son temps, qu'il glisse presque malgré lui, lorsqu'il s'adresse en particulier à un assez large public, dans la répétition des paroles mêmes que Pascal avait jetées dans ses notes en vue du volume d'apologie qu'il n'a jamais écrit. J'apprécie Pascal, et si je dis que je veux résister ce soir à la tentation, c'est parce que j'y ai cédé assez souvent et que j'ai peur que ceux parmi vous qui m'ont déjà entendu, je crois qu'il y en a quelques-uns, trouvent que je me laisse aller à la redite. D'autre part, puisqu'on me demande très précisément de parler en théologien, et Pascal malgré tout n'était pas théologien, je crois que je dois montrer que le rôle du théologien est de serrer l'Écriture sainte, la Bible, aussi près qu'il le peut. Ce n'est pas Pascal, malgré tout, qui est l'autorité à laquelle je veux renvoyer, mais cette parole qui est pour moi parole de Dieu, que je trouve dans la Bible tout entière, et de laquelle d'ailleurs Pascal a tiré à sa manière ce qu'il a essayé de dire. La seconde tentation, c'est celle de tirer de la doctrine du Christ, de ce qu'on appelle techniquement la christologie, toute la doctrine de l'homme. Ça semble très chrétien. Toute la connaissance du chrétien n'a-t-elle pas pour foyer la connaissance de Jésus-Christ, son Seigneur et son Sauveur? Et la démarche qui, spontanément, lui paraît la plus attrayante pour édifier une doctrine de l'homme semble celle qui tire de la doctrine même de Jésus-Christ cette doctrine de l'homme. N'y a-t-il pas une caution pour cette manière de faire dans la grande formule si souvent citée de Pilate? Voici l'homme. Lorsque Pilate, le gouverneur romain, a présenté Jésus déjà ensanglanté et couvert de ce manteau de pourpre dérisoire qu'on lui avait mis sur les épaules avec la couronne d'épines sur le front, lorsque Pilate a présenté Jésus à la foule, il leur a dit « Voici l'homme ». On se réfère très souvent à la traduction latine, ce n'est pas l'original, mais la traduction latine de cette parole « exe homo ». Et beaucoup de lecteurs se sont demandé s'il ne s'agissait pas là d'une prophétie involontaire de la part du magistrat romain. En effet, un peu plus tôt dans le même évangile de Jean qui nous rapporte cette parole de Pilate, le grand prêtre, en fonction à l'époque en Israël, avait prononcé lui aussi des paroles concernant Jésus qui avaient un sens pour lui, un sens cynique, mais qui était simultanément une prophétie, une parole vraie dans un autre sens, que Dieu avait suscité. Ce grand prêtre, Caïphe, d'après le 11e chapitre de l'évangile selon saint Jean, avait dit « Oh bien, il faut le mettre à mort celui-là, il est avantageux qu'un seul homme meure pour tout le peuple. Il suscite des troubles dans le pays, les Romains vont s'en agacer et ils risquent de venir nous détruire la nation tout entière, alors autant supprimer ce fauteur de troubles d'abord. Il est avantageux qu'un seul homme meure pour tout le peuple. » Il avait dit cela dans son calcul de politicien sans scrupules, mais c'était une prophétie dont il n'était pas bien sûr conscient. C'était une prophétie que Dieu avait suscitée, car en vérité, Jésus devait mourir pour le peuple. Alors on s'est demandé si la parole de Pilate n'était pas arrangée dans la même catégorie. Parole prophétique involontaire. Voici l'homme, voici celui qui mérite authentiquement le nom d'homme. Et même si on n'accorde pas à cette parole de Pilate ce statut qui n'est pas précisé dans le contexte, à coup sûr, nous devons tirer du passage que nous venons de lire dans l'Épître aux Hébreux la conclusion que l'humanité est pleinement réalisée en Jésus-Christ. L'auteur part de ce psaume qui réfléchit sur la place donnée à l'homme, l'homme en général, dans la création. Et il aboutit à la conclusion que ce n'est qu'en Jésus-Christ que nous voyons cela réalisé. Cette soumission entière de l'univers, elle est tout à fait douteuse en ce qui concerne l'homme en général. Mais Jésus-Christ, lui, correspond au terme du psaume. Donc il est l'homme véritable. Et peut ainsi, comme l'explique la suite, être le parfait médiateur entre Dieu et l'humanité. Pourtant, je dis que c'est une tentation. Tirer la doctrine de l'homme de celle de la personne de Jésus-Christ n'est pas la procédure qu'il faut suivre, et voici très simplement pourquoi. C'est parce que Jésus n'est pas simplement homme. Il est homme, pleinement homme, mais il n'est pas seulement un homme. Et du coup, si vous partez simplement de ce qui est vrai de la personne de Jésus-Christ, vous n'avez aucun critère pour déterminer ce qui est de l'homme en lui et ce qui relève de son autre nature. Il devient pour vous très, très arbitraire de décider ce qui est l'humain et ce qui n'est pas l'humain en lui. Pour vraiment distinguer l'homme en Jésus-Christ, il faut d'abord savoir ce qu'il en est de l'homme. Il faut être instruit préalablement pour faire la distinction, justement parce que Jésus-Christ n'est pas seulement homme. Nous avons besoin, pour édifier une juste doctrine de l'homme, de toute la parole que Dieu nous adresse, de l'instruction qu'il nous livre et qui se trouve précisément dans la Bible. Nous ne pouvons pas court-circuiter en quelque sorte cet enseignement pour nous mettre à tirer nos propres conclusions immédiatement de l'événement du Christ Jésus. Il nous faut suivre ce que la Bible nous dit. Alors que nous dit-elle? Je vais résumer l'enseignement que j'y trouve, et qui bien sûr pourrait être développé beaucoup plus en détail et encore apparaître sous d'autres perspectives. Je vais résumer cet enseignement sous quatre points principaux que vous avez sur les feuilles distribuées dans les rangs. L'homme est d'abord existant historique, l'être des choix. Je pars, pour l'affirmer, du fait même que la Bible existe, que Dieu lui adresse la parole. L'homme est cette créature que Dieu interpelle. Dieu sollicite sa volonté, il lui adresse commandements et promesses, il l'appelle à se décider et il l'avertit qu'en se décidant ainsi, il décidera aussi de sa destinée. Aujourd'hui, on emploie facilement le néologisme de décideur. Dans le monde de l'économie, on dit qu'il y a les décideurs. Je dirais que pour la Bible, l'homme est un décideur quant à sa propre vie, quant à sa destinée ultime. Et c'est à cause de cette place du choix, à raison des enjeux du choix, que le temps de l'homme revêt la solennité de l'histoire. Il ne s'agit pas simplement d'une durée biologique qui s'écoule, mais d'un devenir qui a sens, et même dramatiquement, qui peut être le corps d'un dessein, d'un projet. Cet accent sur le choix, je vous indique les références pour bien vous montrer que je m'appuie sur la Bible elle-même. Cet accent sur le choix, vous le trouvez en de nombreux endroits, mais par exemple dans un discours de Moïse, au chapitre 30 du Deutéronome, à partir du verset 15, vous avez là un discours très très clair. Voici, je mets devant toi la vie et le bonheur, la mort et le malheur. Choisis la vie afin que tu vives. Il y a un choix qui est radical et auquel l'homme est appelé. De même, nous trouvons l'appel au choix dans un discours que Josué, le successeur de Moïse, adresse au peuple quelque temps plus tard. Nous retrouvons cet appel au choix dans le Nouveau Testament. Les discours des apôtres sont des discours qui invitent à se décider. Et même, dans certains cas, ce qui montre bien le caractère de décision qui arrache au passé, à se désolidariser de toute une génération incrédule et pervertie, comme par exemple au chapitre 2 du livre des Actes. Et déjà, dans le récit du début de la Genèse, au chapitre 2 et 3 de la Genèse, les deux arbres entre lesquels l'homme se trouve placé, l'arbre de la connaissance du bien et mal et l'arbre de vie, représentent cette vocation au choix qui est caractéristique de l'homme. Il faudra qu'il ratifie par son obéissance sa confiance en Dieu en se nourrissant de l'arbre que Dieu lui confie en quelque sorte, ce que Dieu a décidé de bon pour lui, et il faudra qu'il se range avec confiance derrière son Dieu en refusant la tentation de l'arbre de la connaissance du bien et mal, de l'arbre de la pseudo-autonomie. Ainsi l'homme apparaît comme décideur, et il faut souligner que c'est une grande originalité de la vision biblique de l'homme. L'accent sur la liberté responsable n'étonne plus beaucoup le lecteur moderne qui se sait plus ou moins condamné à la liberté, mais c'est parce que la pensée moderne, la pensée disons humaniste, procède sur ce point par sécularisation de l'influence biblique. Et si vous comparez la pensée biblique à celle des autres cultures ou religions de l'Antiquité, alors vous percevez le contraste. Cet accent sur la liberté est tout à fait unique. Au lieu que ce soit un destin aveugle qui règne, au lieu que tout se résolve en termes d'éternel retour, de cycles indéfiniment recommencés, nous avons là la pensée des deux destinées entre lesquelles l'homme choisit. Et si l'homme moderne a, semble-t-il, appris la leçon de la liberté responsable, Remarquons toutefois qu'il y a, de plus récemment, certains anti-humanismes qui semblent revenir comme à la vieille absorption païenne de l'homme dans la nature et qui remettent en cause cet accent sur la liberté responsable, à la fois de façon théorique et pratique. Les systèmes technocratiques ensevelissant en quelque sorte cette liberté responsable qui est caractéristique de l'être humain dans la pensée biblique. Notons cependant que même avec l'humanisme moderne, la vision biblique contraste sur plusieurs points. La liberté dans la Bible n'est pas antagoniste du donné naturel, contrairement à ce qui se passe, je dirais, de manière courante chez les penseurs de l'Occident depuis quelques siècles. On peut dire que la liberté, qui est le propre de l'homme face à la nature, a été conçue de manière de plus en plus antithétique, par négation de ce qu'est la nature, comme une antiphysis. Et on peut suivre comme le progrès d'une exaspération de la revendication de liberté en face du progrès de la domination du modèle scientifique de la nature, qui semble laisser de moins en moins de place à ce choix responsable de l'être humain. On remarque que dans la Bible, cette antithèse n'apparaît pas, que la liberté n'est pas définie par opposition avec le donné naturel. En revanche, la liberté dans la Bible se révèle radicalement aliénée, non pas menacée par la nature, non pas simplement victime de conditions externes, mais de manière beaucoup plus obscure, sans explication ni justification, elle se découvre en réalité esclavage. C'est un esclavage responsable, car la liberté formellement subsiste, mais esclavage du mensonge que l'homme a lui-même choisi. C'est une situation énigmatique, paradoxale. Luther a forgé, pour en rendre compte, une expression elle-même paradoxale, celle de « serf-arbitre ». La liberté en l'homme, concrètement considérée, a-t-il dit, ce n'est pas un vrai libre arbitre. Certes, l'homme continue de choisir, de décider, il reste un décideur. Seulement, il n'est pas vraiment libre de décider contre le mensonge qui a comme pénétré sa liberté même. Il ne se délie pas concrètement de l'injustice, de l'égoïsme, de la recherche de soi. Il y a un esclavage que Jésus lui-même a attesté, répondant à ses interlocuteurs qui se vantaient d'être libres. Quiconque se livre au péché, et vous savez que la notion de péché dans la Bible est très 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 large, est esclave du péché. Et dans le texte que nous avons lu de l'Épître aux Hébreux, vous avez, je crois, observé aussi qu'il était question d'un esclavage. Jésus vient au secours de ceux qui étaient toute leur vie maintenus dans l'esclavage par la peur de la mort. La peur de la mort fait partie de tout ce complexe dont le péché est la racine. La peur de la mort, affirme l'Épître aux Hébreux, tient tout homme naturellement en esclavage. Certes, il y en a qui réussissent à refouler cette crainte et à en éliminer la conscience. Il est possible d'essayer d'en triompher par la sécurisation, où on se crispe sur quelques éléments d'assurance, par la fuite en avant aussi, ou bien essayer de se divertir jusqu'à étourdissement. Mais ces stratégies de fuite sont finalement des témoignages de la réalité, de la présence de cette peur de la mort. La mort habite cette liberté qui fait qu'elle fait ce qu'elle ne voudrait pas, qu'il y a comme une tension, un déchirement, dont l'apôtre Paul a aussi rendu témoignage. Voilà ce que dit l'Écriture de la liberté responsable de l'homme. Elle est habitée par une aliénation, elle est marquée par le mensonge. Mais alors je dis la liberté, ou l'homme libre, a choisi le mensonge. Quand ? Aucun individu n'observe en lui d'une manière pure le passage de l'innocence à la faute, si chez nous, dans notre expérience individuelle, la transition de la rectitude à la servitude est relativement présente, ce n'est jamais une différence absolue. Car quand étions-nous innocents? Quand avons-nous vraiment vécu dans l'entière rectitude? Alors, eh bien la Bible répond là très clairement qu'il ne s'agit pas simplement de choix individuels, mais que l'humanité, considérée comme un corps, dans son unité et en son premier chef, en Adam, a choisi cette corruption, cette aliénation. Et cela, alors, nous conduit au deuxième trait de la vision biblique de l'homme. L'homme n'est pas seulement individu, il est aussi communauté, ou, comme je préfère dire, l'homme est fils de l'homme, prochain du prochain. C'est là donc la deuxième façon dont je caractérise l'être humain selon la Bible. Le caractère communautaire de l'être humain apparaît avec beaucoup de force dans la Bible. Quelqu'un a dit, la Bible commence par le couple et conclut par la cité. Du début de la Genèse à la fin de l'Apocalypse, l'homme n'est pas isolé. Pour la Bible, nul n'est une île, selon le beau vers du poète anglais. Il n'y a pas seulement, pour la Bible, dans cette vision communautaire de l'être humain, ce phénomène qui est observable de l'unité génétique de la race humaine. C'est un seul pool de gènes. Il n'y a pas seulement ce que Teilhard de Chardin observait en l'appelant la coalescence des rameaux, la tendance à une convergence de tous les rameaux de l'humanité. Il y a pour la Bible encore bien davantage dans cette réalité communautaire du « nous » humain. Il y a cette unité spirituelle qui appartient à l'humanité et qui fait qu'elle est comme récapitulée en un chef. C'est valable déjà pour des communautés partielles. Par exemple, un peuple est engagé dans son destin par le roi qui, comme David pour le peuple d'Israël, le résume tout entier, en est la tête. Mais c'est vrai d'une manière beaucoup plus radicale, essentielle encore, pour l'humanité tout entière. Et c'est ce qui explique le rôle qui est donné à l'Adam biblique. Cet Adam dont il est question non seulement au début de la Genèse, mais à d'autres reprises, et en particulier dans les écrits de l'apôtre Paul. Mais en même temps que la Bible met en valeur ce caractère communautaire, elle promeut l'individu comme il ne l'est nulle part ailleurs dans l'Antiquité. J'ai relevé une citation d'un grand spécialiste des religions anciennes, ethnologue Henri Frankfort, qui écrit dans un livre qui compare la Bible aux religions babyloniennes et égyptiennes en particulier, « Des individus sont étrangement seuls dans l'Ancien Testament. C'est poignant. Nulle part dans la littérature d'Égypte ou de Babylonie, nous ne trouvons la solitude des grandes figures de la Bible, étonnamment réelles dans leur mélange de laideur et de beauté, d'orgueil et de contrition, de réussite et d'échec. » Parmi les passages de la Bible auquel je peux vous renvoyer particulièrement, il y aurait le grand chapitre 18 du livre d'Ézéchiel. Le prophète Ézéchiel, qui vivait au début du 6e siècle avant Jésus-Christ, déclare très très formellement que c'est l'âme qui pêche qui sera punie pour son péché. Et que ce n'est pas par lien familial que les décisions de la justice divine seront formulées. Les contemporains du prophète, à son époque, avaient un proverbe désabusé. Il disait, les pères ont mangé des raisins verts et ce sont les enfants qui ont les dents cariées. Au fond, nous écopons pour nos parents. Ce sont eux qui ont péché et c'est sur nous que retombe le jugement. Et le prophète répond que si dans une certaine mesure La chose a pu être vraie dans l'économie de l'Ancien Testament, et selon que l'homme a une dimension communautaire, Dieu cependant, dans le régime nouveau qu'il va instaurer, et ultimement pour son jugement dernier, juge individuellement. C'est une affirmation de la responsabilité individuelle qui est extrêmement forte et dont je ne connais pas de contrepartie ailleurs. Il y a une contrepartie dans la Bible, moins développée, avec citation du même proverbe pour le contrer dans le livre du contemporain d'Ézéchiel qui était Jérémie, un peu plus âgé qu'Ézéchiel, au chapitre 31. Il y a là des affirmations qui sont tout à fait nettes et dans le Nouveau Testament, vous trouvez par exemple cette formule dans l'épître de l'apôtre Paul aux Galates, chacun portera son propre fardeau. Caractère individuel de la responsabilité. Et Jésus lui-même avertissait à propos des événements de la fin, que l'un serait pris et l'autre laissé. De deux hommes au travail dans un champ, l'un serait pris, l'autre laissé. Il n'y a pas d'extension automatique et simplement par la vertu d'un lien communautaire, il y a responsabilité individuelle. Alors je crois qu'on peut dire que la pensée humaine en général a cherché, elle aussi, à conjoindre les deux accents, l'accent sur la communauté et l'accent sur l'individu. Je crois qu'on peut dire qu'elle y est parvenue assez rarement, versant le plus souvent du côté du collectivisme, mais surtout qu'elle a toujours fait de l'individuel et du collectif deux pôles opposés, en tension, antinomique si vous voulez. Or, de nouveau, la Bible évite le tiraillement et elle l'évite grâce à la notion de prochain qui joue un rôle si important, vous le savez, en elle. Le mot prochain est d'ailleurs, dans un certain nombre de contextes de l'Ancien Testament, utilisé de manière parallèle à celui de frère, et je crois que pour notre interprétation, ce n'est pas une remarque inutile. La Bible parle du prochain, elle ne parle pas tellement de l'autre, comme nous avons nous l'habitude de le faire. Et je crois que cette nuance est finalement grosse de conséquences. L'autre, c'est mon prochain. Si je l'appelle simplement l'autre, je ne pense qu'à ce qui nous différencie. Il est pour moi l'étranger. Mais la proximité, elle est une distinction sans menace. Elle est une reconnaissance sans conflit. Le vis-à-vis communautaire de ceux qui sont des prochains favorise l'individualité et n'est pas en tension avec elle. En d'autres termes, l'individu biblique et lui-même individuellement n'ont pas, malgré son appartenance à la communauté où il se trouve avec son prochain, mais plutôt grâce à elle. Et si vous aimez les formules, je suggérerais qu'on dise que l'homme biblique pourrait résumer sa conviction la plus profonde sur lui-même en disant « Tu m'aimes, donc je suis ». Quelle est la fondation de l'assurance d'être soi? Non pas « Je pense, donc je suis ». On s'engage dans toutes les impasses de l'individualisme et de l'impossibilité de construire une vraie communauté, de rejoindre vraiment celui qu'on appelle toujours l'autre, avec un tel point de départ « Je pense, donc je suis ». Et en même temps, on fragilise la certitude de ce « je » pour en arriver à la conclusion que certains tirent, vous le savez aujourd'hui, que finalement ce « je » n'est qu'une illusion et qu'en réalité, ça pense en moi. Oui. La Bible, je dirais, commence plutôt par le « tu m'aimes, donc je suis ». Et peut-être pourrait-on préciser encore les choses, ce serait encore plus exact de dire « tu me dis avec amour ». Que je suis. Tu m'appelles par mon nom, donc je suis. C'est dans cette relation d'un amour qui parle, d'un vis-à-vis où il y a échange et cet appel du nom que l'assurance peut naître d'être soi individuellement. Et cela, vous le trouvez déjà dans le second chapitre de la Genèse. C'est comme cela que la femme atteint la certitude d'être elle-même, l'assurance en soi, lorsqu'elle est saluée par le premier poème de l'histoire humaine, cette bienvenue jubilante de l'homme, qu'il dit cette fois, celle-ci est os de mes os, chair de ma chair. C'est le premier passage, la première parole qui est rapportée de l'homme dans l'histoire de la Bible, et elle illustre bien quel est le rapport fondamental de l'homme à son prochain dans les perspectives de la Bible. Encore d'autres formules. Vous savez qu'on dit beaucoup, on ne se pose qu'en s'opposant. Je ne nie pas que l'opposition soit dans l'expérience individuelle ou dans celle des peuples et des nations, un moyen qui consolide la conscience de soi. Je suggère pourtant que ce n'est pas la formule fondamentale et qu'il faudrait dire on se pose en s'apposant. C'est dans la relation positive au prochain qui, en tant que proximité, n'implique pas la fusion identité. C'est dans la proximité du prochain que le mot apposition peut suggérer aussi que se fonde réellement la conscience de soi. Et l'opposition, si c'est une simple opposition différentielle, peut être comme une variation sur le rapport d'apposition fondamentale, ou bien peut devenir, si c'est une opposition conflictuelle, comme c'est habituellement le cas, alors une sorte de caricature de ce lien premier. Il me semble que dans l'opposition, souvent ce que recherche celui qui cherche par là à se poser, c'est quand même le soutien de l'autre. C'est un lien qui reste malgré tout positif. Et je me demande si dans la guerre, l'opposition ultime, il n'y a pas comme une recherche désespérée de la proximité perdue. Mais si tous les hommes n'étaient que ce qu'on peut voir, peser, toucher d'eux, il serait, je crois, impossible de résister à la réduction anonyme, au simple collectif. Et la dualité non conflictuelle de l'individuel et du collectif dans la vision biblique s'associe inévitablement à la troisième description que je vous propose de considérer, l'homme, âme de son corps, ou encore personne. L'intériorité est un caractère distinctif de l'humain et il est en corrélation irréductible avec la valeur de l'individualité. J'en ai trouvé l'aveu, me semble-t-il, particulièrement éloquent à la fin du livre bien connu de Jacques Monod, Le hasard et la nécessité. Il est extrêmement frappant que Jacques Monod, qui croit nécessaire du fait de ce qu'il a plaidé jusqu'aux dernières pages de son livre, de considérer l'homme d'une manière simplement unitaire, comme s'il n'était que son corps, reconnaisse dans les dernières pages que la thèse de la dualité, une âme distincte du corps, est cependant indispensable à notre conduite morale. Jacques Monod, dans ses dernières pages, vous pourrez les relire et vérifier, fait une sorte de séparation entre la thèse théorique qu'il défend, l'homme simplement le primate hypercomplexe, réduit à son corps avec toutes les fonctions corporelles, et puis l'optique qu'il devra pratiquement maintenir pour ne pas s'avilir lui-même dans les rapports interhumains, optique qui considérera que l'homme n'est pas que son corps, qu'il y a une intériorité. L'intériorité, c'est ce qui permet la communication libre et personnelle entre les hommes. Je tire cela d'un texte de la première épître de l'apôtre Paul aux Corinthiens au chapitre 2, où il souligne comment se fait la connaissance mutuelle parmi les hommes. Nul parmi les hommes ne connaît les choses intimes d'un homme, si ce n'est l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Le propre des hommes, c'est qu'ils ont des secrets, c'est qu'il y a une intériorité qui ne se livre que si elle le veut, par la médiation en particulier de la parole. Mais c'est ce qui donne leur prix aux communications entre les hommes. C'est ce qui préserve la liberté dans la relation avec le prochain. Si nous étions simplement un dehors, sans aucun dedans pour correspondre, nous serions des objets et manipulables comme des objets. Et la relation même qu'il y a entre nous en serait automatiquement dévaluée. Elle ne pourrait plus se situer où elle se situe. C'est pourquoi j'ai évoqué aussi le terme de personne dans la formule que j'ai choisie. Le mot personne, vous le savez, a pour étymologie persona. Il s'agit à l'origine du masque de théâtre que portaient les acteurs et à travers lequel passait le son. C'est le masque par lequel le son se communiquait. L'idée de personne, c'est d'abord l'idée de rôle dans un drame ou une comédie et précisément celle du masque derrière lequel se trouve l'individu lui-même. Or, je ne suis pas en train de faire l'éloge de l'hypocrisie et de dire qu'il faut jouer toujours un personnage de façade, comme on dit. Mais je vous fais remarquer que s'il n'y avait pas cette espèce de dédoublement dans la personne humaine, elle ne pourrait pas être personne. Qu'il faut cette liberté de la communication, qui implique donc intériorité, qui implique que le dehors ne soit pas le dedans, pour que la communication soit vraiment personnelle. Alors la Bible s'intéresse vivement au thème de l'intériorité. En général, elle l'évoque à l'aide du mot « cœur ». L'homme vaut ce que vaut son cœur. Le livre des Proverbes dans l'Ancien Testament, au chapitre 4, verset 23, dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que jaillissent les sources de la vie. » Et Jésus-Christ lui-même a souligné avec beaucoup de vigueur que c'est du cœur que procède tout ce qui est décisif, ce qui souille l'homme en particulier. Contredisant la pensée de beaucoup d'hommes de son temps, de ses contemporains, il dit « ce qui souille l'homme, ce n'est pas tel ou tel élément extérieur de se laver les mains ou de ne pas se laver les mains, souillure rituelle. Ce qui souille l'homme, ce sont les mauvaises pensées, l'envie, les meurtres, etc. Et tout ça procède du cœur. » Jésus a vivement souligné ce thème de l'intériorité. La Bible parle aussi de l'âme, de manière assez diverse, soulignant cette dualité qui ne peut pas s'effacer. Jésus-Christ dit par exemple, « Ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans le jugement l'âme et le corps dans la géhenne. » Elle parle aussi de l'esprit. « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé », prie le psalmiste au psaume 51. Et le livre des Proverbes au chapitre 20 dit que l'esprit de l'homme au-dedans de lui est comme une lampe de l'Éternel qui éclaire jusqu'au plus intime recoin de son être. La Bible a ainsi plusieurs termes et je pense qu'ils se résument tous dans l'expression « l'homme intérieur ». Ce qui importe, ce n'est pas tant la substance de l'âme ou de l'esprit. Il n'y a pas grande théorie à ce propos. Nous n'en savons pas grand-chose dans la Bible. Ce qui importe, c'est cette intériorité, cette dualité qui distingue l'homme des animaux. Et déjà, d'après le récit du second chapitre de la Genèse, où nous voyons les animaux formés uniquement de la poussière du sol, alors que l'homme est formé de la poussière du sol d'une part, mais aussi d'autre part, par une intervention spéciale du Créateur. Malgré tout ce qu'on peut dire de l'intelligence animale, il y a une différence qualitative interne en l'homme, une dualité que la Bible nous apprend à reconnaître. Alors elle ne correspond pas au dualisme platonicien, pour lequel le corps était réellement un fardeau ajouté à l'âme humaine, une prison. Vous connaissez le jeu de mots grec, soma, sema, le corps est une prison. Pour la Bible, le corps, c'est vraiment l'homme aussi. Et c'est comme âme de son corps que l'homme a été créé.
Une des paroles les plus fortes à ce propos se trouve dans la première épître aux Corinthiens au chapitre 6. Là, l'apôtre Paul dit « Le corps est pour le Seigneur et le Seigneur est pour le corps. » Le Seigneur s'intéresse au corps des hommes. Donc nous ne sommes pas du tout dans un dualisme de type platonicien avec mépris pour la matière. Que signale pour nous la dualité qui implique intériorité? Je dirais qu'elle signale comme une énigme dans la constitution de l'homme. L'être de l'homme n'est pas auto-explicatif. S'il est unifié, on comprend. Il est comme auto-explicatif. Mais l'homme est un mystère à lui-même. Il est son corps. Oui, j'ai mal ici ou j'ai mal là. J'ai la gorge qui se noue et qui se rouille. Mais je ne suis pas réduit à ce corps. Je ne suis pas non plus que ce corps. L'homme est autre chose que la part qu'il prend au monde, que la part qu'il est du monde. Pour en revenir quand même à Pascal, vous me le pardonnerez, l'homme passe infiniment l'homme. C'est ce qui est en jeu dans cette dualité qui est fermement attestée dans l'Écriture. Et si je dis que l'homme passe infiniment l'homme, alors j'approche beaucoup de la parole la plus décisive de l'Écriture concernant l'être de l'homme dans toute la création. La thèse majeure, ce n'est pas celle qui définit l'homme comme âme de son corps, malgré son importance. La thèse majeure, c'est celle qu'on trouve dans le premier chapitre de la Genèse. Dieu créa l'homme en son image. En l'image de Dieu, il le créa. Et l'inspection des prépositions dans l'original me conduit à dire que nous devons comprendre que l'homme est l'image vivante de Dieu sur la terre. Que signifie cette expression ? Elle est pour nous très imagée. Alors, que veut-elle dire ? Je suggère de la paraphraser en disant, c'est le titre que j'ai donné dans le canevas que vous avez sous les yeux, que l'homme est un quasi-fils pour Dieu. Voilà la signification de cette formule, l'homme créé en image de Dieu. Ce qui prouve, à mon avis, que l'expression évoque une relation filiale, c'est ce que le même auteur, quelques chapitres plus loin dans la Genèse, nous dit au chapitre 5. Il emploie la même formule en son image, en sa ressemblance, pour parler de la relation entre Adam et son fils. Adam engendra un fils en son image comme sa ressemblance. C'est une manière pour l'auteur de nous dire, voyez, il fallait comprendre dans le premier usage de la formule, au premier chapitre, que l'homme se situe par rapport à Dieu à la manière d'un fils devant son père. Et au chapitre 17 du livre des Actes, l'apôtre Paul, s'adressant au philosophe du grand conseil d'Athènes, l'Aréopage, déclare qu'un de leurs poètes avait eu une intuition juste en disant « De lui, de Dieu, nous sommes la race ». L'homme étant donc la race de Dieu, il y a une affinité, une ressemblance, une relation privilégiée de sa part, et c'est cela qui définit ultimement l'homme. Pourquoi est-ce que le texte dit « image » plutôt que « fils » ? Je pense que c'était pour éviter toute suggestion polythéiste. S'il avait dit « fils », on aurait pu croire que l'homme était divin et non pas une créature. Et cela, l'auteur l'évite en employant le terme « d'image » qui marque bien la distance. Mais le sens de la quasi-filiation doit subsister, à savoir que l'homme a une affinité privilégiée avec Dieu et qu'il doit être en communion avec Dieu, comme un fils peut l'être avec son père. Le titre de fils est plutôt employé pour celui qui est la sagesse éternelle de Dieu, celui qui a pris chair et sang pour devenir parmi nous Jésus-Christ dans la Bible. Le mot « fils » est employé pour lui aussi d'une manière qui est analogique, métaphorique. Il ne faut surtout pas transposer en Dieu les images qui concernent l'engendrement sur la terre pour aboutir alors à l'idée de plusieurs dieux, ce qui est tout à fait hérétique, tout à fait opposé au sens de la Bible. L'appellation de fils est une appellation qui nous permet de comprendre quelque chose de la relation entre Dieu et sa sagesse éternelle, comme nous l'explique le livre des Proverbes, son verbe intérieur. Il y a une telle richesse d'être en Dieu qu'il n'est pas platement un, qu'il déborde d'être en quelque sorte, et qu'il y a en lui la richesse du pluriel comme l'autorité du singulier, l'unité d'une unique nature, et cette pluralité interne qui lui permet d'être père et fils, non pas à la manière humaine bien sûr, mais d'une manière qui demeure mystérieuse, suprême et fondatrice pour toutes les relations humaines. En quelque sorte, l'homme est créé sur la terre un peu comme un reflet sur la terre de cette sagesse éternelle qui est dans la compagnie de Dieu, qui est sa sagesse même en lui, de toute éternité. Dieu veut avoir un rapport de vis-à-vis, d'alliance, de communion qui soit comparable à cette relation-là avec l'homme. Qu'est-ce qui, dans l'être de l'homme, atteste encore qu'il est bien en image de Dieu, qu'il est bien quasi-fils dans sa destination première? Eh bien, je dirais, c'est ce qui subsiste en lui comme témoignage, c'est le sens de la vérité, qui ne réussit pas à extirper de sa propre pensée. Même ceux qui vous plaident qu'il n'y a pas de vérité essaient de vous convaincre que c'est vrai qu'il n'y a pas de vérité. Le sens de la vérité demeure inexorablement attaché à toute prise de parole du côté de l'homme. Il y a le sens de la justice. Un grand spécialiste de psychopathologie criminelle à l'université de Louvain, Étienne de Greff, disait qu'il y a des fonctions incorruptibles sur lesquelles l'homme n'a pas plus de prise que sur sa respiration, et parmi elles, le sens de la justice. Ce sens peut être bafoué en pratique, il peut être perverti dans ses applications, mais il est toujours là. Et l'apôtre Paul nous le dit clairement dans l'épître aux Romains, lorsqu'il souligne que toutes les pensées des hommes manifestent que la loi de Dieu est écrite dans leur cœur, au fond d'eux-mêmes, de telle sorte qu'ils sont tout le temps en train de chercher des justifications à leurs actes, à se dire « ai-je tort, ai-je raison », à s'accuser, à s'excuser. Le sens de la justice atteste que l'homme passe infiniment l'homme. Il y a aussi le sens de l'éternité. Dans le livre de l'Ecclésiaste, nous lisons cette très forte parole « Il a mis, Dieu a mis l'éternité dans leur cœur ». Même pas seulement la pensée de l'éternité, la pensée d'eux s'est ajoutée par le traducteur dans certaines versions. Il a mis l'éternité dans leur cœur. L'homme, s'il a conscience du temps, c'est justement parce qu'il s'exauce, il s'élève au-dessus du temps. Il est comme le nageur dans l'eau. Lorsqu'il est dans le temps, il n'est pas submergé totalement dans le temps, et c'est pourquoi il peut en avoir la mémoire, c'est pourquoi il peut y former son projet. Il y a une présence de Dieu à l'âme, au moins à titre de besoin, de faim et d'inquiétude, qui atteste cette destination à Dieu. Vous connaissez sans doute la fameuse formule des Confessions de saint Augustin, « Tu nous as fait pour toi, et notre cœur est sans repos aussi longtemps qu'il ne repose en toi. » Voilà, me semble-t-il, quelques indices qu'il en est bien ainsi. L'homme est établi dans une quasi-filialité par rapport à Dieu. Et je crois que c'est cela qui nous explique alors les autres traits que nous avons relevés. C'est parce que l'homme est dans cette relation quasi-filiale avec Dieu que se creuse en lui l'intériorité. C'est parce qu'il est en rapport avec un Dieu qui n'est pas confondu avec le monde, au-dessus du monde, qu'il doit y avoir autre chose en lui que la part de monde qu'est son corps. C'est aussi le rappel de la priorité du rapport à Dieu qui empêche l'absolutisation de l'individuel ou du collectif. Si vous partez de l'homme et vous ne considérez que l'homme, vous allez absolutiser l'individu si vous commencez par lui, et du coup le collectif sera inaccessible, ou vous ferez l'inverse. Mais s'il y a une relation avant cette relation-là, s'il y a une relation fondatrice, alors il pourra y avoir un ordre et une proximité par cet ordre. il pourra y avoir espace et mesure. Si vous voulez, il pourra y avoir un prochain frère parce qu'il y a un père. Et la Bible va plus loin encore. Elle nous révèle que le rapport du prochain au prochain, de l'homme à son prochain, est comme une parabole du rapport à Dieu. Dieu met sur nous notre prochain comme une image de ce qu'il est. De telle sorte que l'ouverture au prochain doit être comme le reflet de l'ouverture à Dieu lui-même. C'est pourquoi Jésus a souligné qu'il y a un deuxième commandement semblable au premier et qui s'en déduit aussitôt. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et puis le semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le prochain est image de Dieu sur notre route. C'est aussi la condition quasi-filiale qui éclaire la liberté dans l'histoire. Ce caractère d'existant historique que j'ai mentionné en premier lieu. D'abord parce que le Dieu de la Bible est le Dieu de l'histoire. Il s'oppose au Dieu des religions païennes de l'Antiquité, justement parce que c'est le Dieu qui a un dessein, qui intervient dans l'histoire, pour qui le temps compte. Mais c'est aussi cette condition filiale de l'homme qui explique que la liberté n'est pas à s'opposer à la nature. De nouveau, c'est parce que la liberté n'est pas absolutisée, qu'elle est filiale, qu'elle est donnée par Dieu, qui est aussi l'auteur du monde entier, que liberté et monde peuvent coexister dans l'harmonie et non pas à être compris de façon antithétique. Si la liberté se prétend à partir d'elle-même, si elle se prétend absolue, c'est-à-dire pure indépendance, alors elle va se heurter inéluctablement et suicidairement à tous les déterminismes du monde. Mais si elle se reçoit comme le don du Seigneur, de celui qui tient toute chose dans ses mains, alors elle peut être reçue comme liberté authentique sans menace. Et alors vous le savez, c'est ici que s'est inséré brutalement le drame. Historiquement, l'humanité a tourné son privilège contre elle-même et a prétendu justement que sa liberté serait une liberté absolue, son propre fondement. L'homme image de Dieu a profité du fait qu'il est image de Dieu, quasi-fils, pour prétendre être comme Dieu. Vous voyez la subtilité de la corruption à cet endroit. Être comme Dieu, c'est l'expression même de ce qu'il a aliéné d'après le troisième chapitre de la Genèse. Et c'est ainsi qu'il est tombé alors dans l'esclavage du mensonge, de l'injustice, des idoles du temps. Jésus-Christ est le seul qui ne l'ait pas fait. Et c'est pourquoi il se présente à nous comme l'homme pleinement libre, le Fils qui a vécu dans la liberté que le Père donne au Fils dans la communion. Il est venu de Dieu pour libérer notre liberté et restaurer l'image que nous avions déformée pour faire connaître la filiation divine à ceux qui en avaient perdu le sens. Il a ainsi frayé la voie d'un retour, il a payé le prix dans une communion confiante jusqu'au bout à la volonté du Père. Il a fait le contraire de l'humanité tout entière, d'Adam le premier et de nous tous après Adam, qui cherchons à posséder, qui cherchons à nous affirmer. Il a reçu la liberté du Fils. Et ainsi, il nous la donne. Il en a payé entièrement le prix. Le texte de l'Épître aux Hébreux que nous avons lu dit qu'il a goûté la mort, qu'il a éprouvé la mort pour tout homme, pouvant ainsi mener une multitude de fils jusqu'au Père. Retour à la vraie filiation. Oui, c'est de cette manière qu'il a été vraiment l'homme. Voici l'homme, ex homo. Et je pense qu'on pourrait résumer au fond ce qui est la grande option en se rappelant une anecdote que j'ai lue autrefois. J'espère que ma mémoire ne me trahit pas trop. J'ai essayé de vérifier dans les livres et je n'ai pas retrouvé, je vous le confesse. Mais je suis à peu près sûr de l'avoir lu il y a bien des années. Il paraît que Léonard de Vinci... C'est peut-être pas lui, puisque je n'ai pas réussi à retrouver dans la liste de ses œuvres, mais enfin, un peintre célèbre, avait peint un ex homo, un tableau du Christ dans sa souffrance, avec le titre « Voici l'homme ». Et puis il a eu à peindre aussi, ou à sculpter, je ne sais plus, une représentation de Laurent le Magnifique, Laurent de Médicis, le grand potentat glorieux. Et alors il l'a intitulé Ex Deus, voici le Dieu. C'était peut-être par flatterie, mais si c'était par flatterie, il y avait une ironie cinglante dans ce titre. Je crois qu'il est bien là, le contraste entre le petit dieu vantard, esclave de ses passions, déjà rongé par la mort, travaillé par la crainte de la mort, et bientôt englouti par elle, et puis celui qui, étant le Verbe divin, s'est fait homme, a pris chair et sang pour nous donner de redevenir pleinement ce que nous devions être, des hommes en image de Dieu, des fils. Jésus-Christ a œuvré pour la communauté humaine, selon la dimension communautaire de l'humanité, la communauté dont il est le nouveau chef, en déterminant ainsi le schéma de l'histoire. Maintenant, ce qui commande dans la vision de l'humanité, c'est cette grande triade de la création, du péché de l'homme, la chute, et puis de la possibilité nouvelle que Jésus-Christ a rendue présente pour nous. C'est le schéma dont vous a parlé, je crois, la dernière fois, mon ami, le philosophe Alain Probst. Cependant, je souligne que puisque l'individu est irréductible et que la communauté n'est pas la seule dimension de l'existence humaine, il faut, pour bénéficier de l'œuvre du Christ, pour accéder à la liberté dont il est le modèle et le donateur, il faut se décider individuellement, personnellement, comme un existant historique devant Dieu. Il faut choisir. C'est ce que la Bible appelle la foi. La foi, c'est cette réponse qui dit oui à ce que Dieu démontre et donne en Jésus-Christ. Première question. Vous dites que l'homme a choisi l'aliénation de sa liberté en Adam. Comment un individu aujourd'hui peut-il reprendre à son compte cette aliénation réalisée en Adam ? C'est une question théologique fort difficile. Je n'ai pas voulu l'éviter dans l'exposé que j'ai fait. Vous conviendrez, je crois, que j'aurais très bien pu escamoter cette difficulté. J'ai pensé que je n'aurais pas joué franc jeu avec vous. J'avais à rendre compte du message biblique qui comprend cette affirmation. Elle apparaît à la fois dans la manière dont le récit nous est fait, de l'histoire de l'humanité à partir d'Adam, dans la Genèse, et très explicitement dans certains passages du Nouveau Testament, surtout le chapitre 5 de l'Épître aux Romains et le chapitre 15 de la première Épître aux Corinthiens. En premier lieu, je crois pouvoir répondre à la question « Comment un individu aujourd'hui peut-il reprendre à son compte cette aliénation réalisée en Adam ?» que ça, c'est pas difficile. Que nous le faisons, hélas, constamment. Chaque fois que nous usons de notre liberté individuelle dans le même sens qu'Adam, c'est-à-dire pour nous affirmer la propre fin de nos actes, chaque fois que nous prenons des attitudes de petit Dieu organisant le monde autour de nous et à notre profit, eh bien, nous refaisons ce qu'Adam a fait pour son compte et nous ratifions en quelque sorte le choix tragique qui a été le sien. Donc, disons, si je prends les mots tels qu'ils sont écrits sur le billet, un individu reprend à son compte, hélas, par tous les choix qu'il fait dans le même sens aujourd'hui. Et c'est le fait que l'on constate. Mais la vraie difficulté théologique, et que je ne veux pas donc ignorer, est la suivante. L'homme, lorsqu'il reprend à son compte aujourd'hui, l'individu, le fait avec une volonté, liberté, déjà asservie, déjà dirigée du mauvais côté, dans le sens du mensonge et de l'injustice, de la prétention à être par soi-même, du refus de la confiance en Dieu. Et c'est à ce moment-là, alors que nous disons, mais comment cela se peut-il? Est-ce que c'est juste? La question qui, je crois, monte naturellement dans notre esprit, c'est, mais ce n'est pas juste, puisque ce n'est pas l'individu qui l'a individuellement décidé. La réponse de la Bible me semble la suivante. Du fait que l'existence humaine a un caractère réellement communautaire, que l'individu n'est pas seulement un individu. Il n'y a pas là d'injustice. Il y a une réelle solidarité de la communauté humaine tout entière, non seulement d'un temps donné, mais dans tout le développement historique. Et cela implique, nous révèle la Bible, que cette inclusion de tous dans la même révolte folle, c'est bien le cas, c'est bien ce en quoi nous sommes. Vouloir pour l'individu aujourd'hui refuser en quelque sorte d'être conditionné, si on peut employer le terme, par son hérédité en l'affaire, par son appartenance à la communauté humaine, parce que c'est pas seulement une affaire d'hérédité au sens strict, c'est, je crois, se nier lui-même. Ça n'a pas réellement de sens. Il est cela. C'est une pensée sur le mode du si totalement irréel. Ce qu'il est, il le tient de cette communauté humaine. Il en est un membre. Et alors, il a une seule manière de véritablement répudier cette orientation si nocive, si désastreuse que l'humanité tout entière a prise en Adam, eh bien, c'est de se tourner vers Jésus-Christ. C'est de saisir la grâce d'une liberté libérée par Jésus-Christ. Alors, je ne dissipe pas le sentiment de gêne de celui qui pense en pur individualiste et qui dit « mais je ne voudrais pas être membre de cette communauté ». Je ne dissipe pas cette gêne, je ne le peux pas faire du tout, je crois. Je signale simplement que la réponse biblique me semble être que c'est un irréalisme foncier que de prétendre être pur individu en l'affaire. Voilà ce que je répondrai donc à cette première question. La deuxième, parce qu'il y en a une deuxième sur la même feuille. Adam, est-ce un mythe ou une réalité? A-t-il vraiment, réellement existé? Alors, je crois que je peux vous renvoyer aux pages assez nourries de réflexions et de données que j'ai consacrées à ce sujet dans le livre que les PBU ont publié sur les premiers chapitres de la Genèse. Je crois que je dois très fermement affirmer qu'Adam n'est pas un mythe, n'est pas une représentation fictive pour parler de l'homme en général, qu'il se situe historiquement. Et ce qui me semble alors, je dirais presque amusant, c'est qu'un certain nombre de chercheurs qui viennent des sciences et qui ne sont pas, je crois, des croyants chrétiens, en tout cas déclarés, arrivent ces derniers temps à des conclusions assez semblables. Vous avez eu dans l'Express des titres de ce genre, « Adam a vraiment existé ». Oui. Les lois de la génétique sont telles qu'on en arrive à considérer comme le plus vraisemblable, non seulement un rameau unique à l'origine de l'espèce humaine répandue sur toute la Terre aujourd'hui, mais même un couple unique. Ce qui veut dire que le récit biblique sur ce point ne paraît pas particulièrement difficile à croire. Oui. Est-ce que dans la perspective chrétienne de l'homme, l'acte ultime du libre arbitre, le pouvoir de choisir à la lumière de la conscience intelligente, ne revient pas à l'abandon ou au dépassement de cette liberté de choisir? Si je comprends bien, la question implique ceci, l'accent que j'ai mis sur la liberté de choix a pu suggérer la notion de liberté d'indifférence, la liberté de pencher à droite ou à gauche, et on suggère que la vraie liberté consisterait plutôt à agir dans le sens de l'intelligence. Alors je crois que je peux souscrire à la suggestion qui est faite ici, mais en relevant que lorsque l'intelligence juge, cela implique distance par rapport à toute contrainte. Cela implique un acte de dépassement des déterminismes qui rend quand même toujours précieuse la notion de choix entre des options. Je crois bien que la notion de liberté d'indifférence s'épuise elle-même si on la pousse à bout. Si c'est choisir comme ça entre la droite et la gauche sans aucune raison de faire, Ce n'est plus la liberté, c'est la toupie qui tombe à droite ou à gauche. Il n'y a de liberté authentique, j'en suis persuadé, que dans l'adhésion à la volonté de Dieu pour l'homme, qui est sage et bonne. Et la liberté que reçoit l'homme, c'est celle d'adhérer intelligemment, sans y être contraint, mais sans qu'il y ait, vous voyez, une hésitation et une oscillation indéfinie. C'est d'adhérer à la volonté sage et intelligente de Dieu. Donc je crois que, si je comprends bien cette question, je vais dans le sens du questionneur, mais j'espère que ce que j'ai ajouté comme explication a pu être éclairant. N'y a-t-il pas antinomie dans la pensée chrétienne quand elle prétend que l'homme est libre de choisir Dieu, si l'on considère qu'au jugement dernier, l'homme qui n'aura pas choisi Dieu sera perdu ? Où est la liberté s'il n'y a pas de choix réel, puisque ne pas choisir Dieu semble impliquer être voué au malheur dans l'au-delà ? Alors là, je crois que je réponds assez brutalement, si vous voulez, en disant que la liberté n'implique pas que les actes soient sans conséquence et qu'on n'ait pas à payer le prix pour les choix qu'on fait. Il me semble que la question suggérerait que puisqu'il y a comme enjeu la perdition ou la béatitude éternelle, alors ce n'est pas une vraie liberté. Ce n'est pas en tout cas comme ça que la Bible considère, je crois, la liberté et la responsabilité. Je crois qu'elle jugerait qu'une liberté qui ne serait sanctionnée par rien, par aucune conséquence, serait finalement une liberté vide et vaine, et que c'est le sérieux de la liberté qui se démontre dans le fait que l'homme effectivement portera son choix au jugement dernier. C'est, si vous voulez, l'étonnement de Job 7, ce passage que je mentionnais tout à l'heure. Oui, il est étonnant que cet homme si misérable, si infime, soit traité comme responsable par Dieu. Mais c'est parce qu'il est quasi-fils pour Dieu que Dieu l'a fait capable de lui répondre d'une manière non contrainte. Et c'est cela qui se verra encore jusque dans l'éternité. Pourriez-vous expliciter le fait que la liberté est antithétique de données naturelles dans la philosophie occidentale ? Oui. Alors là, ça, c'est une grande question. Bon, je vais essayer de ne pas résumer, même en 5 minutes, tout le cours que j'essaie de donner à M. Buchholz et à quelques autres en bien des mois. Bon, nous pourrions partir de Sartre, parce que c'est le plus facile. Chez Sartre, la chose est déclarée, avouée de la manière la plus violente, la nature comme antiphysis, la liberté comme antiphysis, contre nature, la liberté comme négativité par rapport aux données. La liberté, c'est de néantiser. Mais Sartre, chez qui donc la thèse est grosse comme une maison, n'est à mes yeux que l'aboutissement d'un processus qui commence dès la Renaissance. La pensée de l'homme moderne, qui naît à la Renaissance, est dominée par l'antithèse du moi et du monde, de la liberté et de la nature. Et l'homme tend à se concevoir comme extérieur à la nature. Il la maîtrise, il la voit de haut, et ce dualisme de la nature et de la liberté est assez évident chez Descartes, avec les deux substances qui n'ont sans aucun contact, de telle sorte que Descartes est extrêmement ennuyé lorsqu'il s'agit d'expliquer l'union de l'âme et du corps. Et il hésite, il tâtonne entre plusieurs solutions, il n'en trouve pas vraiment de satisfaisante. Mais dans un premier temps, pourrait-on dire, tant que les prestiges de la raison sont demeurés jusqu'au XVIIIe siècle, cette séparation de la nature et de la liberté n'est pas encore conçue comme une opposition forte, parce que nature et liberté sont conçues comme rationnelles l'une et l'autre. C'est à partir de la vague irrationaliste du romantisme que la liberté va se concevoir, et de plus en plus, comme opposée à la nature. La nature, c'est ce qui est réglé scientifiquement, intelligible, ce qui est déterminé, cercle fermé de cause et d'effet. La liberté, bien, c'est le contraire, c'est le spontané, c'est le jaillissant, c'est l'imprévisible. Et il me semble qu'on voit s'exacerber cette opposition au fil des générations pour arriver aux formes sans doute les plus extrêmes, en tout cas il me semble que c'est les plus extrêmes qu'on ait atteintes, chez Sartre. Le Nouveau Testament invite à imiter Jésus-Christ. Comment, à partir de ce que vous venez d'exposer, peut-on comprendre cette imitation ? Alors je crois qu'à partir de ce que j'ai exposé, ça se comprend très bien. Il s'agit d'être libre comme il est libre. Ça c'est, si vous voulez, le contenu de l'imitation. Et il s'agit de l'imiter avec la force qu'il communique parce qu'il nous est venu en aide, qu'il s'est fait notre frère pour nous porter secours. Voilà, en gros, les deux éléments de la réponse. Alors je détaille un tout petit peu. Le contenu, être libre comme il est libre, c'est-à-dire libre de cet esclavage du mensonge, de l'injustice, des idoles, de toutes sortes, du moi qui nous caractérise trop naturellement, être libre comme il est libre dans la soumission à Dieu, qui est vraie liberté, dans la communion au Dieu Père que l'on connaît personnellement, et dont on reçoit la sagesse en soi pour marcher selon ses directives. C'est comme ça que Jésus a été libre. Lisez l'Évangile, si vous ne l'avez pas encore fait. Je ne crois pas qu'il puisse y avoir un seul homme dans l'histoire qui vous donne une aussi grande impression de liberté. Liberté, je dirais, étale, sereine, inattaquable que Jésus. Jésus est libre, mais il est libre dans la communion du Père, dont il fait toujours la volonté. Alors ça, c'est pour le contenu de l'imitation. Et pour la force, oui. Alors ça, nous n'y arrivons pas tout seuls. Nous ne nous libérons pas tout seuls de l'esclavage du mensonge. Mais nous le pouvons en nous joignant à Jésus-Christ. Il est venu nous rejoindre justement pour que cela nous soit possible. La décision à laquelle, finalement, je vous ai invité, c'est la décision de se joindre à Jésus-Christ, d'accueillir cette liberté qui contredit notre manière trop spontanée de vivre et de faire. Et cela, eh bien, en prenant connaissance du don qu'il nous offre dans la Bible, et puis en lui disant par une décision, oui, je suis d'accord, je crois que c'est pour moi, je le veux. C'est comme ça que s'opère l'imitation de Jésus-Christ.